Votre papa fait des études en dehors du certificat d'études?
Ah non, non, il a fait le certificat d'études, mais aussi le premier
Le
ordre,
premier
comme moi,
ordre
oui.
aussi.
Et ma mère aussi.
C'est jusqu'à quel âge en fait, enfin, c'est à quel âge le premier ordre?
Eh bien, c'était un an après le certificat d'études et l'école était obligatoire jusqu'à 13 ans.
Donc ça fait 14 ans.
Ben oui, mais nous, il fallait qu'en 13 ans, non, on allait, c'était obligatoire jusqu'à 13 ans. Il
Oui.
fallait qu'en 13 ans, on ait passé le certificat d'études et l'année d'après, le premier ordre.
D'accord.
Mais c'était le seul département de Meurthe-et-Moselle, hein, vous n'en trouverez ça nulle part. Vous en trouverez ça dans les archives des écoles. Hein,
D'accord, c'est seulement Meurthe-et-Moselle. Je pensais que c'était toute la
ah
Lorraine.
non, non, c'est que la Meurthe-et-Moselle, département 54.
D'accord. Et votre maman, quel était son métier?
Ah ben elle était, à ce moment-là, les femmes n'avaient pas de métier. Hein.
Oui.
Enfin, elle savait aussi faire des paniers, mais son père était aussi vannier. Ben, elle faisait la culture, ils avaient des vaches.
Elle était fermière en fait.
Oui, fermière. Ils étaient tous, mon père aussi, la vannerie, c'était secondaire, mais ils étaient ogiériculteurs. C'était des
Ogiériculteur.
producteurs d'ogier.
D'accord.
Alors l'hiver, ils faisaient la culture. Et l'été, ils récoltaient leur rogier, ils le blanchissaient et ils le vendaient blanchi. Et ils en gardaient pour eux, pour travailler l'hiver, ils faisaient des paniers. Il y en a qui étaient vannés toute l'année. Hein. Alors ceux-là aussi cultivaient leur rogier. Hein.
C'est du boulot, hein, la culture d'osier. J'ai eu l'occasion d'aller visiter un musée, ils expliquaient, c'est long.
Ben oui, on fait une récolte par an, c'est tout.
Heureusement, vu le travail que ça
Oui.
prend.
Ah ben je cultive encore, moi.
Oui, vous
Ah
avez
oui.
des terrains?
Oh, moi j'ai le terrain,
Avec de l'osier?
oui. Oui, oh, mais là-bas j'avais un gros coin, mais ici, tout près d'ici, j'ai un petit coin.
Oui. Et vous y allez toujours vous-même?
Ah, ben oui.
Eh ben.
Et puis, moi je fais encore. Je blanchis à la main, vous savez, tandis que maintenant il y a des machines. Hein. Vous prenez une poignée d'un coup, mettez dans la machine, hop, ça part, vous retournez, ça y est.
Et blanchir, ça veut dire enlever.
Enlever l'écorce, quoi.
D'accord.
Oui. Tandis que moi, j'ai encore le vieux système. Hein. Je prends mon jet par un bout, je retourne et puis je repasse en tirant. J'ai vu faire ça étant jeune.
Oui.
J'ai même vu, je suis sûrement un des seuls, même de la région, qui a vu ça. Les Romanichels, vous savez ce que c'était? Les Romanoreux, ils n'avaient pas, nous, la petite machine qu'on tire. Ils avaient fondé un petit rondin, à peu près de la grosseur là, vous voyez.
Oui.
Alors on le fendait en quatre, ici. Quatre.
D'accord.
Ça vous faisait quatre parties en deux. En deux. Ça faisait quatre parties. Alors ils enlevaient les deux parties qui se faisaient face, à peu près 10 centimètres. Alors il
Oui.
restait deux trucs triangulaires, hein.
Oui.
Vous voyez, deux trucs comme ça, qui se faisaient face dans le rond.
Oui.
Alors là, c'était pas fermé, hein, naturellement. Alors on prenait l'ogier d'une main, on le mettait avec l'autre main, on serrait là-dessus et on tirait. Ça écrasait le machin. Ça
D'accord.
n'allait pas vite et c'était difficile. Ça a été un gros progrès quand on a fait la machine que j'ai, moi. C'est un truc, un ressort en bas qui la tient fermée, serrée l'une contre l'autre. Elle est arrondie pour qu'on ait facile d'envoyer. Alors on envoie un bout dedans, on tire, on retourne et on envoie l'autre bout. On fait ça toute la journée, quoi. Mais c'était difficile, mais on
Oui.
faisait que ça quand j'étais jeune. Mais après, quand j'ai vu, enfin, j'avais quitté le pays, mais ils ont installé pendant mon départ, ils ont trouvé une machine, c'est un tambour, oui, un tambour. Alors, on appelait ça des pelleux, nous, les machins qui pellaient. Ils en mettent un son dans leur machine, ils font tourner le machin, ils me présentent là. Ça va tout seul, quoi, ça va vite. Il y a
Oui.
eu des ennemis au début aussi, il y a des gens qui voulaient pas, parce que soi-disant, l'osier était trop travaillé, alors il avait perdu son miroir, comme on appelait. Oui, c'est brillant, l'osier. Hein.
D'accord.
Alors, comme à repasser trop de fois, ça enlevait un peu, mais ils ont trouvé la combine, ils ont desserré les pelleux. Maintenant, ça n'enlève plus le brillant.
C'est aussi bien que du fait main.
Oui. Seulement, ça ne sert plus à rien, puisque tout est tombé. Hein. Il n'y a plus d'osier, c'est plus du tout.
Ah bon?
Oh, on avait une école de vannerie qui était. Vous savez, la grande vannerie française, c'était au Faibio, que ça se fait, dans la Haute-Marne.
D'accord.
Alors là, c'était des professeurs qui étaient venus de Faibio, qui avaient monté une école à Ogivilliers. Et tous les gens du voisinage, les pays voisins, il y en a qui venaient de 20 km, ils venaient à l'école, ils se sont perfectionnés pour faire des choses qu'on ne faisait pas. Parce qu'ici, on faisait juste le...
paniers.
Oui, les paniers, attendez, tiens, je vais vous montrer ce qu'on faisait. Comment les paniers, on les faisait ou rond, ou ovale, ou... Je faisais des trucs comme ça.
C'est beau.
Ben maintenant, je ne fais plus que ça, moi. Je ne fais plus l'eau.
Et vous les faites vous-même? Vous
savez faire ça? Oui, oui.
Waouh.
Wow. Ben, mais alors, dans le temps, on faisait les paniers à lessive. Vous savez ce que c'est, panier à lessive?
Non. Ben,
c'est un grand panier qui est ovale, comme ça.
Oui.
Et puis, alors, on fait des la bouche qu'on appelle... C'est exactement ça, seulement. C'est beaucoup plus haut, hein, c'est comme ça.
Oui.
Et ça, c'est moi qui ai inventé la forme-là. J'ai pas inventé, j'ai vu faire, comme il n'y a plus que moi qui ont fait.
Et vous
je gagne un argent fou avec ça.
Oui.
Oui, surtout, 0 francs, 0 centime. Je les donne tout, alors.
Ah, même moi qui allais dire, faut que je vous en achète pour en ramener chez moi.
Ah, non, non. je vous en donnerai une, si vous voulez, mais je vous en vendrai pas. J'en ai jamais vendu. Je suis en retraite. Alors, je suis revenu ici en 1970. Ça fait 35 ans. J'en ai fait tous les hivers, sauf les 8 années ou 9 années que j'ai soigné ma femme.
Pour plus. Oui, bien sûr.
Ça représente des centaines de paniers comme ça. Mais je les ai tous donnés, j'en ai pas vendu jamais. Mais la Josiane, c'est votre cousine, c'est votre...
C'est ma tante.
C'est votre tante, ben, j'en ai donné à elle aussi, encore au, à son mari. Quoi.
Non, puis c'est costaud en plus, et puis, oui. Et puis c'est du fait main, c'est inappréciable.
J'irai voir en bas si j'en ai un, je vous en donnerai un. Parce que celui-là, il est déjà retenu, c'est pour une fille. J'ai celle qui est directrice d'école là-bas, elle a doté son école plein de paniers de toutes sortes, mais moi je ne fais plus que maintenant une sorte. Alors elle a encore promis à une fille, ben, une de ses élèves, de ses adjointes. Quoi.
Oui.
Alors ben, je lui donnerai.
Mais vous êtes trop gentil de tout donner comme ça, c'est du travail.
Ben, non, mais il y a aussi une raison, que je ne veux pas avoir d'ennui avec le fisc, moi.
Ah.
Parce que si je donne, j'ai le droit de donner, on ne peut pas m'empêcher. Seulement si je vends, il faut que je demande une patente et que je paye ma patente.
Je comprends.
Et puis le chiffre d'affaires en plus. Alors je ne veux pas m'embêter avec ça.
Bien sûr.
Moi j'ai une retraite qui me permet de vivre, ben, je vis avec ma retraite et puis j'ai la retraite de ma femme aussi, hein, la réversion.
Ah, ça fonctionne aussi. Je croyais que ça fonctionnait que dans le sens quand l'homme décède, la femme...
Ah, c'est pareil, ça a toujours été... Ils ont modifié la loi cette année, mais ils ne modifient pas ce qui existait avant.
D'accord. Oui, et comme votre femme travaillait...
Oh, ben elle était 35 ans dans l'enseignement.
Elle était institutrice.
Oui.
Oui.
Elle n'a jamais voulu être directrice, elle. Ah non, on lui avait affaire une direction à Rambervilliers. À côté de... Comment ça s'appelait? Les noms de pays, ça m'échappe.
Oui, oh, c'est pas grave, moi, ça me dit pas forcément grand-chose, mais pas loin d'ici.
Oui, c'est pas loin, c'est un... Oh, c'est pas Rambervilliers. Enfin, au lieu de faire la direction là-bas, l'inspecteur, il avait déjà fait tout, il a dit non, moi, je veux pas y aller. On était installés dans un pays où il se plaisait bien, il est resté... 27 ans dans le même pays, là. On n'a jamais eu d'histoire avec les gens du village, rien du tout, on était bien.
Mais quand vous avez... Vous êtes beaucoup déplacé, elle vous a suivi à chaque fois. Elle pouvait retrouver du travail.
Ah non, elle a toujours... Je vous dis, elle a fait 27 ans, poste là. Là,
ouais.
Même poste. Avant, elle était à Strasbourg. Elle a été à Marseille, elle était assistrice à Marseille.
Ah oui, donc elle pouvait vous suivre.
Pendant 3 ans. Ben, elle a pu... J'étais pas avec elle, j'étais prisonnier, moi.
Ah,
j'étais
d'accord,
en Allemagne.
C'était quand vous étiez en Allemagne.
Oui, ben avant quand on était jeune marié, elle était à Strasbourg. Mais elle avait fait toute sa jeunesse à Strasbourg.
Mm.
Et puis après la guerre, elle est revenue ici, au Jubilé, quoi. Il n'y avait rien à manger à Marseille. Et mon père, lui, quand il a vu la guerre venir, il était en retraite aussi, de la brasserie, là. Mais il a repris des vaches, oui, deux vaches, puis des cochons, alors... Il disait, venez, moi j'ai des vaches, j'ai des cochons, on a à manger. Alors elle est venue, elle a pris un poste ici à Réconville, à 200 mètres d'où j'ai vu les...
Oui.
Et après la guerre, elle a remplacé un prisonnier. Après la guerre, le prisonnier a pris son poste. Alors on lui avait donné tout un choix, mais comme on avait deux enfants qui étaient étudiants, hein, alors elle a dit, ben on va se mettre près de Lunéville. Et on était à 2 km de Lunéville, qui est une petite ville.
Oui. Oui, c'est sympathique, Lunéville. J'y suis allée. Je suis venue en décembre et j'ai vu la Saint-Nicolas.
Ah oui, oui.
C'était une première pour moi. À Nice, on ne fête pas du tout.
Non.
On ne connaît pas. Et vos parents parlaient, pas toi?
Ah eux, oui, mais mon père ne voulait pas, lui. Mais il parlait pas. Il me disait, moi, quand j'étais jeune, on ne parlait que ça. Tandis que moi, de mon temps, déjà les aînés, ou puis, vous savez, ils venaient des villageois, ils venaient des gens qui n'avaient pas l'habitude de parler patois. Même s'ils étaient originaires d'Augéville, ils avaient perdu, ils ne parlaient plus.
Mais à vos parents, c'était leur langue maternelle, ils ont appris le patois avant le français.
Ah, étant gauche, oui, à leur temps, là.
Oui. Et il y a un patois pour le village d'Augéville, ou c'est pareil?
Non, c'est pas... Écoutez, c'est pas pour le village, hein. Mais il y a des mots quand même qu'on ne retrouve que dans un village. Mais vous avez Fréménil, Réclonville, Pétonville, tous les pays autour, c'est le même patois.
D'accord.
Et ma femme, sa famille était originaire de Corchieux, c'est dans les Vosges, 70 km d'ici. D'accord. Ils ont un patois, c'est le même, on se comprend bien, mais c'est pas une façon de prononcer, les déformations de mots sont les mêmes. Hein.
Mm-hmm. D'accord.
Alors on se comprend.
Et vos parents parlaient allemand aussi?
Ah non, non, non. Pas du tout, oui.
Ah bon? En étant aussi proche de la frontière?
Ah non, non, pas du tout. Et on avait de la famille à Fouquet, hein, parce qu'il y a des mariages qui se sont faits. Hein.
Oui.
Ah, forcément, à la frontière, comme ça. Alors nous, on avait de la famille, on avait des gens qui étaient mariés, des cousins de ma mère, qui étaient mariés à Fouquet, puis ils ont resté là-bas, ils avaient appris, puisque ça parlait. Hein.
Mm-hmm.
Quoique... Là, toute frontière, ils parlaient les deux langues. Ils étaient obligés. Les Allemands les forçaient à parler allemand. Les Français ne sont pas occupés. Si après le départ des Allemands, les Allemands, ils étaient libres de parler comme ils voulaient. Mais
oui.
Dans les écoles, les instituteurs, ils ne voulaient pas qu'on parle patois. Allemand, nous, on ne parlait pas allemand, on parlait patois. Mmh. Mais ils ne voulaient pas entendre parler de ça. Parce que ça faisait faire des photos. À la langue française, c'est pour... Ah, mais si vous savez, à l'écriture, ça.
Ah oui.
Ah, ça faisait des fautes.
Oui.
Mais Josiane, elle ne parle pas du tout le patois.
Non, je crois qu'elle le comprend un petit peu, mais...
Elle doit encore comprendre, oui, oui. Son père était mon conscrit. Il aurait comme moi 93 ans.
Oui.
Et lui, il parlait encore. Avec lui, on parlait encore. Souvent patois.
Et votre femme, elle le parlait, le patois?
Ah, elle le comprenait aussi parce qu'à Corchieux, elle avait appris, sa tante, n'est-ce pas? Elle allait en vacances chez sa tante à Corchieux, sa grand-mère habitait Corchieux, alors quand elle était en vacances là-bas, elle parlait le patois.
Oui. Mais bon, comme vous, elle n'a pas eu le droit de le parler, donc.
Elle a fait ses études à Strasbourg, tout. Elle était à l'école maternelle, elle a commencé par la maternelle à Strasbourg. Elle était chez les sœurs d'abord, et la maternelle là-bas. Elle a été là, chez les sœurs. Après, quand elle a passé aussi... Mais elle n'a pas passé le premier rang. Après, là, je ne sais pas quoi, elle est entrée tout de suite au collège. Quoi.
Ouais.
Elle a fait son brevet supérieur. Elle n'avait pas fait le bac. Hein, ça ne faisait pas le bac à ce moment-là. C'était le brevet supérieur.
Oui. C'était à quel âge, le brevet supérieur?
Comme le bac aujourd'hui, à 20 ans, on a le moyen. Quoi.
D'accord. Oui,
vous avez des gens qui passent le bac à 16 ans ici, et puis il y en a d'autres à 22 ou 23 ans. Ça dépend comment ils ont bien marché.
Oui, bien sûr. Et elle parlait allemand, votre femme?
En dehors, parce que ses parents, sa mère était de Corchieux dans les Vosges, ne comprenait pas un mot d'allemand, et son père était du territoire de Belfort. C'était pareil, il ne comprenait pas allemand.
Oui.
Alors elle parlait avec ses frères et sœurs. Eux, pour que les parents ne comprennent pas, ils parlaient toujours. Mais elle dit autrement, quand on était dans la rue, il fallait bien parler après la guerre. Les Strasbourgeois, il y en a qui connaissaient le français, mais pas beaucoup.
Bien sûr.
Ils l'ont appris à l'école, après. Mais quand ils sont arrivés, c'était en 19, en 18, enfin à la fin 18, quand la guerre finit. Alors ils se sont trouvés à mélanger avec des gosses.
Oui, bien sûr. Elle est née en quelle année, votre femme?
Le 13 février 1915.
1915. Pendant la guerre.
On n'avait pas beaucoup de différence.
Non, c'est vrai.
Pendant la guerre.
Il paraît que c'est très bien, 2 ou 3 ans d'écart dans un couple.
Oui, bon. Non, du temps de mon père, oui, j'avais 10 ans, c'était courant comme ça.
Oui, c'est beaucoup, hein, les hommes se mariaient tard.
Ah oui, oui.
Peut-être le service militaire était plus long.
Oh, puis il y avait une autre raison. Hein. Les mariages se faisaient comme ça dans leur temps. Hein. Le mari, c'est lui qui payait son mariage. Et la fille amenait sa dot.
Oui.
C'était ça. Alors lui, pour réunir l'argent pour faire un mariage, mon père avait eu un truc, une chance extraordinaire. Quand il a passé le conseil de révision, les conscrits, il était reconnu comme étant le plus beau conscrit de Meurthe-et-Moselle. Et alors, savez ce que c'était la récompense? Une pièce de 100 francs en or.
Oh, c'était beaucoup.
Oh, ben, 100 francs en or. Il a payé sa noce, il a vendu là. Seulement, il l'a vendu 10 ans après, puisqu'il avait passé le conseil de révision à 20 ans, et il s'est marié à 30. Mais pour payer la noce, il n'avait pas le moyen autrement. Eh ben, il a vendu sa pièce d'or. Elle existe toujours, c'est volé encore. Elle est toujours à Fréménil. Et les gens, c'est moi qui leur ai appris, parce que les héritiers, ils m'ont dit, ah oui, ça, leurs parents leur avaient jamais dit, je vous le donnais. Alors ils disent, on a une pièce d'or de 100 francs, mais on ne sait jamais. J'ai dit, moi je sais, c'est mon père qui l'a vendu à ton père.
Pour payer la noce, c'est marrant.
Pour payer sa noce, oui. C'était comme ça, enfin, c'était une règle générale, mais les gens qui voulaient se respecter, comme on disait, ben, c'était comme ça. La fille amenait sa dot. Et puis le mari payait la noce.
Et puis j'imagine que c'était des grandes noces avec...
Ah, des noces qui duraient 3-4 jours. Hein, ça,
ah oui, il fallait pouvoir financer.
Ah, il fallait financer ça. Et puis il y avait la question des terrains aussi. Enfin, les terrains, c'était à part. Hein. Mais celui qui n'avait qu'un hectare, il ne se mariait pas avec une fille qui en avait 80. Vous savez, ça ne se faisait pas. C'était beaucoup des mariages d'intérêt. Hein. Puis des mariages forcés. Mon père et ma mère n'étaient pas des gens à se laisser marier, mais... Ils se sont mariés, ils se sont trouvés tout seuls.
Oui.
Mais sinon. Mais il y avait beaucoup de mariages où la fille, elle n'avait rien à dire, ou le fils souvent. Parce que les parents étaient durs à ce moment-là. Hein, les...
Pour avoir des terres ou pour.
Pour marier les deux fumiers, comme on disait. C'était au tas de fumiers qu'on mesurait ça.
Oh là là.
On disait ça en patois. Oui.
Oui. Sinon, on va un petit peu parler de vos activités.
À moi?
Oui, encore 5 minutes, après je vous fais lire et après je vous libère.
Ah oui.
D'accord.
Donc, enfin, pour 11 heures, hein, on a encore 20 minutes. Hein.
Bon, ça va. Donc vous faites de la vannerie.
Oui, maintenant, oui. Mais ils ne vous croiront pas si vous dites ça à des gens. Ils verront 1912 la date. Ils sont fichus les hommes à ça. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose, je ne peux plus écrire, moi.
Ah oui.
Ah, mais je...
Vous avez de l'arthrite, vous avez...
Non, c'est un... Un espèce de tremblement. En écrivant d'un coup, ça part comme ça. Alors, je ne peux plus. C'est mes enfants quand ils viennent. Mais c'est quand c'est fait, faut faire des chèques, c'est embêtant.
Ah oui.
Hein, quand le chèque est illisible, la signature, on s'en fout, on arrive toujours. Hein. Puis elle est n'importe comment, ils ne regardent pas. Ça.
Mais remplir le chèque, oui.
Remplir le chèque, c'est. Et puis, il y a des moments où c'est bien tranquille, là, ici. Ça, ici, vous voyez, bien. En allant doucement, j'arrive, puis je fais, au lieu de faire des lettres courantes, je fais des lettres d'imprimerie, vous voyez, comme ça.
Oui.
C'est plus facile, hein. Alors, étant bien, ça va. Mais quand vous êtes quelque part, quand vous demandez un chèque, souvent on est debout, j'ai la main qui tremblote. C'est surtout la main droite.
Oh, les gens peuvent vous le remplir. Dans les grandes surfaces.
Ah, dans les grandes surfaces, il n'y a qu'à signer, c'est tout.
Ouais. Puis chez les petits commerçants, vous leur demandez, je pense.
Ah ben oui, mais autrement, je ne veux pas, parce que je vous dis, si je ne suis pas bien tranquille, j'ai la main qui fait comme ça.
Oui, c'est pas la peine. Hein. Et vous faites, je vois aussi que vous faites des mots fléchés.
Ah ben maintenant, l'hiver, qu'est-ce que je fais?
Oui.
Ah, ça, c'est un coup de téléphone.